la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie car je suis en compagnie de Rodrigo de Zayas. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
De son éditeur Bruno Dohan, qui reste modestement derrière, et également de son épouse Anne Perret, qui parlera au micro dans une autre émission, puisque celle-ci est consacrée au magnifique travail biographique que vous avez fait sur votre père, Marius de Zayas, 1880-1961. Donc vous êtes né en 1935, donc vous avez connu votre père jusqu'à l'âge de 24 ans. Et j'aimerais justement dans cette émission avoir un peu cette, je ne sais pas si c'est des souvenirs, si c'est un hommage, si c'est une compréhension de votre père. Et puis pourquoi vous avez éprouvé le besoin pendant plus de 10 ans de travailler à ce magnifique coffret, hein, dont il y a déjà eu une émission avec Bruno Dohan, donc de l'Atelier Bay, 2 livres, un noir, Marius de Zayas, ou La fin d'un commencement, j'aime beaucoup ce sous-titre, et un livre orange, qui est son travail plus technique, mais nous en reparlerons. Alors vous, Rodrigo de Zayas, vous êtes né en 1935 à Madrid, et nous verrons au fil de cette émission comment tout ce qui est andalou, espagnol, mexicain est important.
Les mexicains peut-être moins, parce que je crois qu'on aurait énormément de peine à trouver une mexicanité, excusez-moi de ce terme.
Oui, mais il y a l'espagnol, la langue espagnole.
Tout à fait, la langue espagnole qui est partagée entre les espagnols et les mexicains. Mais par exemple, si on connaît un Diego Rivera, qui était non seulement un ami, mais même un collaborateur à certaines expositions que mon père avait organisées, il y a une vraie mexicanité chez lui. C'est quelqu'un qui représente des thèmes, des sujets mexicains, et il se réclame de cela. Dans le cas de mon père, c'est assez différent. C'est-à-dire qu'il a été exilé du Mexique.
Il
est né au Mexique, mais cette naissance est due à le grabuge qu'il avait eu déjà avec son grand-père, qui avait écrit et décrit en tant que journaliste le véritable caractère du roi d'Espagne de ce moment-là, qui était Ferdinand VII.
Un fou criminel. Ça n'a pas plu.
Ça n'a pas plu. Il a été condamné à mort par contumace. Il s'est échappé juste à temps. Et donc là commence l'exil, parce qu'en fait, Cuba est une...
Est un exil, déjà.
Oui, mais non, pas vraiment, parce que c'est une province espagnole. Ce n'est pas vraiment une colonie, parce qu'il faut se souvenir que quand les Espagnols arrivent à Cuba, ils apportent un virus qui assassine tout le monde. Ça, c'est une chose qu'on comprend très bien maintenant, en ce moment, avec le Covid-19. Et donc, il quitte, le grand-père de mon père, quitte Cuba, s'installe au Mexique, et fait exactement le trajet qu'avait fait Hernán Cortés, de la Havane à Veracruz. Et c'est là que mon père est né.
Et c'est vrai que dans ces 2 livres, on voit ce côté vraiment romanesque, un côté absolument, j'allais dire, un peu fou des destins de votre père, un petit peu de vous aussi. Vous êtes polyglotte, vous êtes grand voyageur, vous êtes musicien, vous êtes écrivain. Vous avez vraiment vécu dans un milieu absolument culturel. Et je reviens à mon idée de Marius de Zayas, je ne sais pas dire premier souvenir, mais quel souvenir vous avez de lui en tant que fils ?
Écoutez, c'est un père qui aimait partager. Il se partageait lui-même, pour commencer, avec non seulement son fils, mais ses 3 filles. C'était injuste, donc aucun de ses enfants n'était préféré à l'autre, du moins dans le traitement.
Même pas le fils.
Même pas le fils.
À l'époque, c'était
assez rare. Non, c'était à l'époque, c'était déjà un tour de force. Moi, mon impression, si vous voulez, d'un point de vue strictement poétique, je dirais que j'ai l'impression d'une présence opalescente. Parce qu'il n'y a pas de couleur brutale, il n'y a pas de contraste rouge, noir, par exemple. Non, non. C'est quelqu'un de nuancé, un regard bleu acier, donc bleu-gris, taille moyenne, une forme physique très athlétique. J'admirais la forme de son corps. On aurait dit une statue grecque.
Et c'est vrai qu'il se caricature lui-même, il est très longiligne tout de même.
Oui, assez, oui, je crois qu'il exagère.
C'est la caricature.
C'est la caricature, il exagère ce côté-là, tel que dont je me souviens.
Mais moi je pense aussi, quand je vois ces caricatures, ce qui est très net, c'est sa souplesse. Hein, et ça va peut-être de pair.
Une souplesse qui est due à son désir de simplifier le trait. Mmh. Et bien que ses maîtres eussent été, pour la plupart, français d'ailleurs, je pense à Carandage, je pense à Daumier, bien sûr, Daumier, surtout Daumier, le génie absolu.
Mais je pensais souplesse aussi intellectuelle, c'est-à-dire un regard vif, un regard acéré, une curiosité.
Son regard était dû, en plus il avait énormément de sens de l'humour, mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il voulait représenter la profondeur de ceux qu'il caricaturait. Mmh. Alors quelque chose qui est pris de leur caractère, et pour cela, plus il y a de traits, plus il y a de dessins, et moins on s'en approche. Et ça, ce trait, ce que j'appelle l'essentialité du trait, il est allé le chercher chez les artistes chinois et japonais.
Donc une très très grande culture, bon, d'un milieu aisé, l'accès vraiment aux livres, à la musique. Et vous aussi, vous avez été baigné là-dedans. Racontez-nous votre enfance.
Eh bien, mon enfance, je suis né donc à Madrid à l'âge de 3 mois et demi. Mes parents me ramènent en France. Ouais. Et donc, d'ailleurs, France où j'ai été conçu. Je suis né à Madrid, mais j'ai été conçu.
Donc vous êtes franco-espagnol.
Franco-espagnol ou hispano-français, voilà. Et dès ma plus tendre enfance, la Seconde Guerre mondiale est en train de se préparer sur la guerre civile espagnole, dont j'ai gardé des souvenirs parce que l'on en disait, et par les républicains qui venaient souvent chez nous pour rendre visite à mon père, parce qu'il avait conservé des liens avec eux.
Alors, il faut peut-être dire que votre père a voulu que vous naissiez en Espagne, mais après, vous avez vécu votre enfance, donc où ?
Voilà, mon père a voulu que je naisse en Espagne parce qu'il avait le désir de clore l'exil qui avait commencé avec Ferdinand VII. Ouais. Donc, ça remonte à 1848, là, on est en 35-36.
Vous êtes chargé vraiment d'une histoire importante.
Chargé d'une histoire, et de plus de 1000 ans d'histoire, d'ailleurs.
C'est pas trop lourd ?
Non, je me suis battu. Je n'ai pas toujours gagné, je vous dirais.
Et ce livre, en fait, cette, j'allais dire compilation, mais c'est plus qu'une compilation, c'est aussi une façon de boucler la boucle.
Oui, c'est une façon de boucler la boucle, mais aussi, pour une fois, c'est rare, d'aller contre la volonté de mon père. Il ne voulait aucune notoriété. Ces tableaux qui sont remarquables, à mon avis, maintenant ce sera au lecteur de le dire, mais ce sont des tableaux qu'il n'a jamais exposés. Il peignait pas vraiment pour lui, parce qu'il partageait volontiers ce qu'il avait, ce n'est pas un égoïste du tout. Mais les expositions, l'exposition au public, les critiques, tout cela, à d'autres. Ouais. Il abandonnait volontiers à d'autres. Il allait même tellement loin que certaines de ses idées les plus brillantes, il les abandonnait à d'autres.
Ouais. Donc il a été, en fait, accaparé
seulement...
Oui,
non, mais c'est que... Plus que la possession de l'idée, ce qui lui intéressait, c'est que c'est la réalisation de l'idée.
Donc c'est une modestie, mais quand je vous écoute, je me demande, vous le connaissez bien sûr bien, si c'est pas en fait la peinture, si c'était pas un peu son jardin secret. Il a été caricaturiste, il a été près des journalistes, il a été galeriste, il a été commissaire d'exposition, mais sa peinture, elle était peut-être que pour lui en fait.
Que pour lui en effet, mais je dirais que certains de ses meilleurs dessins l'étaient aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'adaptait au goût du public pour ce qu'il faisait pour le public. Mais dès qu'il s'agissait de la création d'une œuvre d'art, que ce soit en dessin ou en aquarelle ou en peinture à l'huile, il le faisait plus que pour lui, il le faisait au nom d'une idée. Or, pour la peinture, c'était à travers une sorte de cheminement initiatique, voilà, c'est le terme qui convient. Il est passé par d'abord la possession du dessin, la technique du dessin, ensuite...
Complètement autodidacte en plus.
Complètement autodidacte, oui, il n'a jamais été même élève d'école, même primaire.
Oui, vous disiez, il n'a pas du tout été à l'école du tout.
Ensuite, le deuxième stade, c'est qu'il est allé dans les montagnes du Tyrol, comme l'avait fait son ami et aîné John Marin. Qui lui avait conseillé de le faire, donc il part avec ma mère. Ils ne sont pas encore mariés, ils sont mariés plusieurs années après ma naissance.
Oui, c'est une belle histoire d'amour.
Une belle histoire d'amour, en effet. Et il s'installe à Saint-Anton, en Autriche.
En Autriche.
Et il géométrise les montagnes du Tyrol. Alors, cette géométrisation est une idée qu'il a découverte à travers... Jean Metzinger, Metzinger, mmh. Metzinger, je crois que c'est la bonne prononciation.
Et puis Cézanne.
Et Pablo Picasso.
Et Cézanne, non?
Oui, mais Cézanne, attention, c'est que pour arriver à faire, non pas du cubisme, il n'a jamais voulu faire du cubisme, il voulait géométriser. Il fallait passer par Cézanne.
Ouais.
Il fallait passer par Cézanne. Ouais. Et il a donc peint et dessiné et fait de l'aquarelle dans les traces de Cézanne. C'était vraiment là une initiation. Et finalement, il arrive à ces tableaux géométriques.
Oui, alors là, il faut parler du livre. Et c'est vrai que le travail qu'a fait Bruno Dohan est remarquable.
Hein. Tout à fait remarquable. Bon, ça, c'est, nous parlons de la mise en page. C'est quelque chose de prodigieux.
Mais j'y pense justement avec l'aquarelle de Cézanne et l'aquarelle de votre père face à face.
Son face à face, oui.
Et c'est vrai que c'est une façon vraiment de s'immerger dans la peinture. Et on comprend que vous voulez vraiment... rendre hommage et puis rendre visible la peinture de votre père.
Oui, je veux la rendre visible et ça va contre sa volonté.
Bien, ça va, vous l'assumez tout de même.
Oh, je l'assume, mais je ne crois pas qu'il va trop se fâcher avec moi quand je le retrouverai dans l'au-delà. Il sera bientôt, parce que maintenant, nous sommes en train de parler d'un jeune homme, mon père, et c'est celui qui en parle est un vieil homme qui a 85 ans. C'est assez paradoxal.
Oui, mais c'est toute l'histoire, je pense, de la généalogie, de la transmission. Et je trouve que c'est très beau. Et au-delà de l'âge, il y a cette... je ne sais pas comment dire. Il y a ce goût, cette beauté, cette recherche, cette curiosité. Et ça n'a pas d'âge.
Et quand j'en parle, dans le fond de mon esprit, il y a toujours, je m'attrape à sa main qui était très, très forte. C'était quelqu'un de physiquement très fort.
Ouais.
Et je m'y attrapais. Je me sentais protégé. Je me sentais en sécurité. Et je me sentais heureux. Il y avait une capacité de bonheur chez cet homme que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous donne un exemple très rapide. De temps en temps, il lui venait une envie de fête. Non, ce n'était pas aller à une fête. Non, non, il voulait que cette fête soit chez lui.
Faire
il réunissait
fête,
sa famille,
ouais.
Il prenait une accordéon, il jouait des valses ou des tchotis ou ce qui lui venait à l'esprit, et nous, on dansait.
Et donc, c'était un moment de communion,
de communion, joie. De communion, de joie, de plaisir. Oui, voilà, on était heureux.
Alors, on a démarré par l'Espagne et vous n'avez pas raconté là l'anecdote de Montoya et en 1936, comment votre père a réussi à le faire enregistrer. Et vous avez choisi là une musique de Manolo de Huelva à Compagne, où il y a une ambiance très particulière, et ça correspond vraiment à ce que vous dites, hein, c'est-à-dire la fête, l'ambiance, le bruit...
Oui, mais attention, là, dans ce qu'on appelle en Andalousie les cafés cantantes, il y en a à Madrid aussi,
même à Barcelone,
le café chantant, c'est un endroit où on va pour parler, pour rigoler, pour crier, pour faire du bruit, pour dire olé, tout ça, mais il y a un moment où entre le cantejondo, et à ce moment-là, c'est le silence et le respect absolu.
Oui. Là, c'est la musique.
C'est la musique. Et ça, c'est une musique qui est en voie de disparition.
Ouais.
Elle s'est commercialisée. Et par conséquent, maintenant, on fait ce que peut-être le public attend comme étant la musique folklorique de l'Andalousie. Le flamenco n'a jamais été une musique folklorique. C'est une musique traditionnelle. Et ceux qui savent, aujourd'hui, qui savent encore le pratiquer, sont une infime minorité.
Mais c'est vrai que nous sommes à Nîmes, et le Festival Flamenco de Nîmes, justement, essaye de montrer en quoi c'est un art complet, le flamenco.
Ça le Festival de Nîmes est certainement le plus important en France, et un des plus importants au monde. Alors,
Nîmes, bravo Nîmes.
Bravo Nîmes,
bravo
absolument, mais je le dis.
Bravo le théâtre de Nîmes.
Mais il y a là tout de même un écueil qui, parfois... C'est-à-dire qu'il faut tout de même présenter ce qui se fait aujourd'hui.
Oui.
Et ce qui se fait aujourd'hui, parfois, est très éloigné de ce qu'est le flamenco.
On ne va pas rentrer dans cette polémique du nouveau flamenco, qui est aussi un art qui se régénère, qui se perpétue, peut-être en oubliant justement la tradition. Et là, nous écoutons donc Luis Cavalheiro.
Thank you. à l'avancer.
Alors sur Radio Alliance Plus, donc après musique espagnole, puisque j'ai avec moi donc Rodrigo de Zayas, né à Madrid par la volonté de son père, Marius de Zayas, et nous allons venir peut-être plus maintenant sur ces deux livres, donc édités à l'Atelier Bay. Il faut aussi écouter l'émission que j'ai réalisée donc avec Bruno Dohan, qui
oui,
a été le concepteur, le graphiste, une mise en page magnifique. Et vous êtes très heureux de voir ce coffret qui est une sorte, enfin qui n'est pas une sorte, qui est un hommage à votre père. C'est peut-être la première fois qu'il y a une telle somme consacrée à votre père.
Absolument la première fois. Et ce sont des dessins et des peintures qui se trouvent à Séville, chez moi, que mon père m'a légué. Et donc, la mise en ordre, c'est moi qui l'ai faite, mais la mise en page, c'est Bruno Dohan.
Et c'est remarquable. C'est-à-dire qu'on a envie vraiment... Il y a ce contact physique avec le papier, avec ces pages qu'on ouvre.
Et au lieu de le présenter dans un strict ordre chronologique, Bruno a eu une excellente idée, qui a été de présenter les dessins ou les peintures, pour accompagner le commentaire que j'en fais. Alors, cela étant, on commence par l'aventure de mon père au tout début de l'art moderne à New York. Donc, des voyages à Paris, des voyages où il fait la connaissance, en particulier, là, je pense au salon d'automne de 1910, où il découvre Jean Metzinger.
Dont vous avez parlé tout à l'heure.
Donc, un tableau qui était intitulé « Nu ». Et il passe un moment tout de même pour arriver à digérer cette chose extraordinaire. Et puis, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment le véritable article. Donc, c'est pas Metzinger, mais un Espagnol.
Peu connu, Pablo quelque chose.
Quelque chose. Alors, à travers le frère de son ami, Paul Burtier Avilande. Franck Avilande est peintre, est très proche de Picasso, et il amène mon père et lui présente. Et alors là, il découvre vraiment, comme il disait lui, en anglais, « the real thing », le vrai, véritable article. Et tout à fait enthousiasmé, il écrit à son ami et associé à New York, le photographe, l'artiste photographe
Stieglitz.
Et pour lui proposer une exposition, et cette exposition est véritablement une explosion.
Un succès étonnant.
Et ce succès étonnant, mais un rejet étonnant, vraiment, de tout ce qu'on en dit.
Mais parfois le succès va avec le rejet. On pense aux impressionnistes, par exemple, ou aux refusés.
Ce n'est pas de l'art, c'est de la catastrophe, c'est horrible, c'est grandiose, c'est des exagérations.
Ouais.
On sent vraiment qu'on défend plus un point de vue que la réalité.
Mais c'est bien d'avoir commencé justement par 1910. Et puis, Picasso, c'est peut-être par lui qu'on connaît votre père.
Oui.
Et c'est peut-être gênant, parce que associer votre père qu'à Picasso, alors qu'il a fait plein d'autres choses, ça ne vous gêne pas ?
Si, ça me gêne un peu, parce que d'abord, ça met l'œuvre graphique, ça le met dans l'ombre. Lui, il a voulu que ce soit dans l'ombre.
Ouais.
Ici, nous combattons cette ombre pour y jeter une lumière sur ce qu'il a fait. Alors, on voit toutes sortes de formes de dessins, et ce qui est intéressant chez mon père, c'est que le style n'est pas quelque chose d'évolutif comme chez Picasso. Il les a simultanément. 4, 5, 6, 7 différents styles.
Oui, mais parce que justement, il a trop de choses dans l'esprit.
Pas vraiment.
Non.
Pas parce qu'il a trop de choses, mais parce qu'il utilise le style comme un outil.
Ah, de travail. D'accord.
Mmh. Alors, mmh. Il fait le ad hoc, le dessin qui correspond au sujet qu'il a envie de faire. Mmh. Selon si il va publier ce dessin, par exemple, Evening World, un des principaux journaux de New York pour lequel il était le principal caricaturiste. Bien, il utilise un style linéaire, ultra simple, ultra concentré sur les traits reconnaissables du sujet. Par ailleurs, il utilisera des dessins plus pour lui, plus idéalisés, en utilisant des effets qui sont plutôt ceux d'un Félicien Robbes ou voilà, c'est-à-dire des ombres, des contrastes, des dramatismes de Victor Hugo par exemple, qu'il a beaucoup étudié seulement
Victor
en tant qu'être humain, mais en tant
que
magnifique dessinateur oui.
Très dramatique aussi. Je parlais de romanesque, mais il y a aussi un côté très dramatique, très profond,
très bon, mais plus profond que Victor Hugo, on tombe dans les abysses. Je crois.
Oui, mais moi, parfois, quand je vois les dessins de Victor Hugo, il y a un côté très angoissant, très angoissé, qui n'avait pas du tout votre père.
Non, ce n'est pas quelqu'un d'angoissé, mais c'est quelqu'un qui représente l'angoisse assez volontiers.
Ouais.
Et parfois, d'une façon prémonitoire, il fait, par exemple, un dessin d'un Vanderbilt. Vanderbilt, un homme extraordinairement riche, et qui un beau jour traverse l'Atlantique et son bateau est torpillé par l'Allemagne à ce moment-là. Mmh. Il y avait la Première Guerre mondiale, qui n'était pas en guerre contre les États-Unis.
Mais non, c'est qu'en 17, hein,
alors ce brave homme, qui est de gros capitaliste, de vraiment la personne que généralement on trouve plutôt antipathique, était en première classe, évidemment. Il voit une passagère de troisième classe avec un bébé dans ses bras, qui n'a pas de gilet de sauvetage et qui n'a pas accès au bateau de sauvetage.
De sauvetage, oui.
Alors il cède le sien. Mm. Il ne sait pas nager. Il est mort. Eh bien, il y a dans son visage une mélancolie qui est prémonitoire dans le dessin que mon père en fait, comme s'il l'avait senti.
Ouais.
Et c'est vrai que mon père avait, dans son dessin, souvent, dans ses caricatures, c'était beaucoup plus que le désir de ridiculiser quelqu'un.
Mm.
Mais d'en extraire la substantifique moelle.
Oui, parler de l'âme, ça semble peut-être un peu grandiloquent, mais oui, percevez justement quelque chose, presque comme un médium. C'est peut-être la définition de l'artiste. L'artiste va
Je crois que c'est le fond de la question. C'est-à-dire que dans tous ses rôles, par exemple d'introducteur de Picasso à New York et tout cela, mon père est avant toute chose un artiste.
Mm.
Ce n'est pas à moi de dire s'il est grand ou non, mais en tout cas, c'est un artiste que je voulais faire connaître,
mettre en avant.
Et une grande partie du travail de cette mise en avant, c'est Bruno qui l'a faite par sa mise en page.
Et vous croyez que votre père, Marius, serait content de ce coffret?
Je crois que sa première réaction serait de l'agacement.
Tu m'as désobéi.
Oui, et puis la deuxième réaction serait quand même d'être, comme il a toujours été avec moi... juste.
Ouais.
Il aurait compris que mon intention, c'était de...
était bonne.
Oui, de le prendre dans mes bras. Et de...
Donc c'est un très beau geste d'amour filial, au-delà de l'artiste. C'est...
Oui, c'est vrai que le complexe d'Œdipe n'a pas de place dans l'histoire.
Alors, vous disiez que vous avez toutes les peintures de votre père, donc parce que vous vivez à Séville.
Oui.
Ça en fait beaucoup.
Non, pas du tout. Ça en fait, je n'ai pas le chiffre présent à la mémoire, mais je dirais que, par exemple, dans le style géométrique, qui est vraiment l'aboutissement de sa peinture, il y en a 11 seulement.
Des grands formats, des petits formats
Des formats moyens.
Oui. Il aimait travailler sur des formats moyens.
Oui. Il se servait, pour sa peinture et ses toiles, il se servait chez Lucien Lefebvre-Foinet, qui aussi s'occupait des envois d'œuvres d'art entre Paris et New York. Et cela, un tour de force en pleine guerre mondiale, la Première Guerre mondiale.
Oui.
Et il est resté avec eux toujours. C'était
la fidélité.
Alors, si vous situez cela, c'est situé à un endroit tout à fait stratégique, parce que c'est l'endroit où la rue Vavin et la rue Bréa se rencontrent, juste derrière la statue de Balzac.
Voilà, la force des symboles, là aussi.
La force des symboles.
La force des symboles. Alors, Vous avez connu votre père donc de votre naissance, 1935, 23 décembre hein, précisément, jusqu'au décès de votre père en 1961.
Oui, le matin du 10 janvier.
Il est décédé de ?
D'une thrombose coronaire.
Brutalement ?
Rien non, pas brutalement. Il lui a fait une vingtaine de jours.
Ouais. Donc vous avez souvenir de lui malade, vous avez...
Je l'ai vu malade, oui. Et en pleine possession de ses facultés mentales. Il est parti en sachant qu'il mourait, il est parti...
Et qu'est-ce qui vous a laissé en plus de l'interdiction de le publier?
Il ne m'a jamais interdit cela. Ce n'était pas un interdiseur, c'était un possibiliste. Il aimait que nous fassions des choses, donc j'étais assez volontiers un caméraman. Je l'ai lancé. Mais parfois, il avait des tendances assez amusantes. Un beau jour, ma mère était là, ma sœur, et on l'aidait, on l'entourait. Et il a donné à ma mère un marteau à tenir. Alors, elle a tenu le marteau pendant tout son travail, mais pendant la journée, elle est restée avec ce marteau. Alors, on disait à ce moment-là que l'aider, c'était tenir le marteau.
Ah, d'accord.
Non, mais c'est un peu une boutade. Ce que je faisais souvent, c'était de prendre des photographies à partir desquelles lui faisait un film. Il faisait des films informatifs.
Oui, il était polyvalent.
Très polyvalent. Il était musicien. C'est lui qui m'a appris, donc qui m'a donné les bases de mon propre métier. Moi, j'étais concertiste.
Oui, nous le reverrons puisque nous allons vous consacrer une autre émission. Merci de nous accorder tant de temps. Mais
c'est un plaisir pour moi.
Mais pour moi aussi, c'est un plaisir de vous entendre parce que c'est une émission culturelle, artistique, mais c'est aussi une émission, je dirais, d'amour. Hein, je dirais. Et moi, j'y ai pris grand plaisir. J'espère que vous aussi. Et puis, prenons ce coffret, hein, ces deux livres-là, de l'Atelier Bay, de Bruno Dohan, le livre noir Marius de Zayas, le livre orange, on peut parler hein, sur le travail de votre père pour le premier conservateur de Bach. Félicitons Bruno Dohan de ce magnifique travail, vous lui en êtes reconnaissant parce que c'est une façon magnifique pour vous d'avoir rendu hommage
Exactement.
À votre père.
Et je suis reconnaissant non seulement à Bruno Dohan, moi je dis Dohan, je ne sais pas si c'est correct.
Peu importe.
Oui. Mais j'ai fait sa connaissance en faveur de quelqu'un qui était, qui a eu son importance dans le journalisme, qui était Jacques Maigne.
Oui. Qui est décédé, oui, qui est venu à notre micro et que nous regrettons beaucoup.
Ça a été autant pour Bruno que pour moi un déchirement. C'était un très, très proche ami. Et c'est lui qui avait l'idée. Il a dit, Rodrigo, tu dois absolument faire ça avec Bruno.
Bah, écoutez, nous terminons avec cet hommage aussi à Jacques Maigne. Merci à vous, Rodrigo de Zayas. Et merci à Marius de Zayas aussi.
Je lui dirai de votre part.
Merci.
Alliance Plus.